Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors, c'est la dernière, quasiment, librairie de l'écho de l'année. Nous aurons rendez-vous quand même à Aix-en-Provence la semaine prochaine avec une librairie qui sera enregistrée dans le cadre du Cercle des économistes. Mais là, c'est notre célèbre librairie de l'été, la dernière émission, celle au cours de laquelle nous allons vous redonner tous nos conseils de lecture pour cet été, avec évidemment nos critiques attitrés, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternative Économique, Jean-Marc Daniel, qui lui est professeur émérite à l'ESCP et critique attitré de la Société d'économie politique, et puis Julien Damon, qui vient remplacer alternativement Christian, Jean-Marc, quand ils ne sont pas là, qui lui critique pour Les Échos et qui est enseignant à Sciences Po. Et donc, voilà, on va démarrer. Alors, on a regardé un petit peu quels étaient les grands thèmes sur lesquels les publications avaient été nombreuses. Et donc, on les a rangés comme ça dans notre bibliothèque de l'été. Et donc, on va commencer avec les grands livres concernant, évidemment, les conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Et Jean-Marc Daniel, vous avez choisi de nous parler du livre d'Adam Touze, L'Arrêt, aux éditions des Belles Lettres.
Oui, Adam Touze, c'est un professeur d'histoire, plutôt, qui avait publié, au moment juste après la crise de 2008-2009, un livre qui était devenu un livre de référence, Crash, sur cette crise. Donc, il remet ça avec la pandémie. Il nous raconte une année, un peu plus d'une année. Il commence fin 2019 avec les premières restrictions en Chine et finit début 2021 avec l'arrivée du vaccin au Ghana. Et il déroule cette année si particulière de façon factuelle. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que il ne parle pas que de l'Europe, des États-Unis. Il parle également de ce qui s'est passé en Inde, en Afrique, en Amérique latine. Et la deuxième chose, c'est qu'il met en avant des conséquences qui sont des conséquences, pas uniquement des conséquences économiques immédiates, mais des conséquences financières. La dette s'est considérablement accrue et on retrouve des problèmes qu'on avait eu dans les années 80 avec cet endettement des pays du tiers-monde. Alors, il y a une petite fragilité, c'est que la conclusion, c'est que la Chine va être le grand vainqueur de cette triste aventure, sauf que la Chine est de nouveau en train de se confiner, alors que les autres pays ont plutôt réussi à sortir de la...
Ça va, ça vient, Jean-Marc Daniel.
Oui, certes, certes.
Christian Chavagneux, vous avez lu aussi le livre.
Pour un historien, ça va, ça vient, un petit peu difficile. On attend qu'il prenne du recul. Et Jean-Marc l'a bien dit, de manière factuelle. Moi, c'est ça ma principale critique du livre, c'est que c'est complètement à plat. C'est une succession de faits. Nous avons vécu cette crise et nous n'apprenons rien du tout dans ce livre. Voir tout ce qui nous intéresserait sur les batailles, par exemple, autour des vaccins. Est-ce que c'était trop cher, pas trop cher? Fallait une aide publique, fallait tout. Tout ça, et on passe complètement à côté. Juste un descriptif à plat. Je trouve que pour un historien, moi, je suis pas un fan de l'histoire immédiate.
Eh ben, vous savez quoi, il commence bien. Commence bien cette émission. Donc, on commence par le livre que
j'ai adoré et qu'il a détesté.
Voilà, et que c'est pas la peine de lire. Bon, voilà, à l'image de la saison. Christian, vous avez aimé le livre Un pognon de dingue.
Oui.
Mais pour qui? L'argent magique de la pandémie par Maxime Combes et Olivier Petitjean aux éditions du Seuil.
Qui a profité de l'argent public distribué du côté des entreprises, en France, c'est la question que posent les deux auteurs. Alors, on regarde, par exemple, les prêts garantis par l'État. Les grandes entreprises, c'est 0,01% du total des prêts. En termes de montant, c'est plutôt 12%. Mais si on regarde les filiales des grands groupes, là, on est plutôt aux deux tiers. Donc voilà, ce que disent les auteurs, c'est que les grands groupes français ont été les premiers gros bénéficiaires de l'ensemble de l'argent de la pandémie. Et ce qui les agace beaucoup, c'est qu'en face, il n'y avait aucune contrepartie. Certains de ces grands groupes qui ont touché beaucoup d'argent ont mis des gens à la porte, ont distribué des dividendes de manière fabuleuse. Donc ça, ils n'aiment pas. Ils prennent un peu de recul dans la deuxième partie du livre, qui est la plus intéressante à mon sens, en disant est-ce que cette aide exceptionnelle vers les grands groupes, elle est justement exceptionnelle ou bien est-ce qu'elle est pérenne? Et en fait, ils arrivent à montrer que l'ensemble des grandes entreprises perçoivent l'équivalent d'entre 5 et 6% du PIB d'aide chaque année, plus de 2000 types d'aides exceptionnelles exonération fiscale, machin, tout ce que vous voulez.
Oui, il mélange un peu le pognon Covid et le pognon.
Non, c'est vraiment en deux étapes. Il y a d'abord le Covid, d'accord, et après, il y a sur les 10 dernières années, une aide qui est massive, distribuée de manière très opaque. Je suis sûr que Jean-Marc a été.
Non, alors je ne demande pas l'avis de Jean-Marc, puisque Jean-Marc, vous le savez, savoir, il a détesté ce livre.
Non, pas du tout. J'étais plutôt assez d'accord pour la dénonciation du capitalisme de connivence. Sauf que moi, je dénonce la connivence alors qu'il dénonce le capitalisme. Mais au total, on était assez d'accord pour dénoncer ce capitalisme de connivence.
Julien Damon.
Moi, je trouve qu'il y a des choses contestables dans cet ouvrage. D'abord, c'est le ton, c'est une attaque en règle contre Bernard Arnault, contre BlackRock. Ah, tout de même, oui, dans les titres des partis, on a droit à ainsi des mises au banc ou au pilon de personnalités qui sont relativement importantes. Il y a d'ailleurs des erreurs, puisque à partir du moment où dans le texte, ils nous disent que Bernard Arnault a multiplié sa fortune par 2,5, c'était au moment où ils ont posé leur plume, quand la bourse était au plus haut, on pourrait leur rétorquer que sa fortune a été divisée par un facteur de 1,2, 1,3 depuis que la bourse baisse. Mais c'est un classique comme remarque. Ce que je trouve de très bien, c'est qu'ils ont fait la comptabilité des aides, ils ont mis en avant le sujet de la fraude au PGE, la fraude possible aussi au chômage partiel. Mais je veux dire un tout petit mot sur le titre. Pognon de dingue, on a l'impression que ça concerne tout désormais. Quand le président de la République en a parlé pour la première fois, c'était pour parler des minima sociaux. Et sur ce sujet, il y a un pognon de dingue, une véritable pluie de pognon de dingue depuis la crise Covid. Depuis plutôt les gilets jaunes qu'on a cherché à calmer et à arroser avec la prime d'activité. Et depuis lors, je pense que les deux journalistes devraient reprendre, et ce qu'ils ont bien fait pour les entreprises, leur exercice pour les personnes modestes. Et on verrait qu'au stade où nous en sommes, on n'y comprend plus rien. Entre les chèques carburant, les indemnités ceci, les aides cela, il y a certainement un peu de mise à plat à faire.
Alors, littérature abondante aussi, évidemment, au cœur d'une année électorale, autour de toutes les fractures qui traversent la France, les politiques économiques, les politiques sociales. Que faire, effectivement, pour remettre la France sur pied? On commence avec... Alors, on ne peut pas ne pas commencer avec le livre que nous avons couronné du Grand Prix du livre d'économie de l'année, BFM Business, Montpensier Finance. Julien Damon, c'est le livre de David Tesmar et Augustin Landier, Le prix de nos valeurs, chez Flammarion.
Bon, si j'avais un livre à emporter sur la plage, moi, c'est celui que je prendrais.
D'accord.
Donc, certes, moi, je l'ai déjà lu, donc ça ne me servirait pas à grand-chose. Mais si vous deviez choisir un livre, voici ma recommandation.
Donnez-nous envie de le lire.
Ah, d'abord, c'est très simple pour ceux qui se posent des questions. C'est relativement court. C'est écrit de façon tout à fait accessible. D'ailleurs, c'est l'objectif des auteurs que de faire partager leurs observations et leurs conclusions. Observations qui portent sur quelque chose de finalement assez classique, même si eux semblent le découvrir, qui est que la rationalité ne se limite pas à la volonté de maximiser son intérêt. La rationalité peut aussi être en valeur. Alors, les petits trucs assez captivants dans l'ouvrage, il nous montre le décalage entre ce que pensent les universitaires et le reste de la population, peut-être avec un certain complexe de supériorité de la part des universitaires. Il traite d'un ensemble de sujets qui vont des questions identitaires aux questions de redistribution. Et ce qu'ils veulent faire, et ce qu'ils réussissent à faire dans une certaine mesure, c'est de mesurer les préférences économico-morales, je lis le mot parce que c'est compliqué à prononcer, montrant qu'il n'y a pas que l'hédonisme dans la vie. Et ils ont une technique pour cela, chacun peut, au-delà de lire l'ouvrage sur la plage, aller sur Internet et faire l'enquête qu'ils ont montée, qui consiste à regarder les préférences, sonder les préférences des gens, plutôt que leurs opinions. Moi, bon, je trouve que c'est un ouvrage qui est, dans le détail, peut-être critiquable, je sais qu'autour de la table, certains pourraient le faire avec de bons arguments, mais qui est assez percutant. Voilà. L'argument essentiel, c'est que c'est un bouquin percutant. Plein de petites remarques, par exemple, aussi, contre les nudges et la nudgeocratie, les nudge lords, montrant qu'il y a plein de manipulations douces qui sont antidémocratiques. Donc moi, je trouve que c'est un des ouvrages qui m'a le plus marqué sur la saison.
Non, c'est vrai que c'est intéressant de voir le côté, finalement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour, finalement, mettre en phase nos valeurs voilà, sur quel sujet, par exemple. Il y a plein d'expériences intéressantes, hein. Combien vous êtes prêt à dépenser en plus, par exemple, si le tramway que vous prenez dans votre ville est fabriqué près de chez vous. Et donc, ça donne des clés, je trouve, pour la politique économique. Clés. Et puis surtout, sur la façon de réconcilier un peu aussi économie, démocratie. Et ça, c'est quand même pas mal. Hein.
J'ajouterais, et sociologie, le dire en une phrase, eux s'inspirent beaucoup de Durkheim, mais ils auraient dû davantage lire Weber et lire un autre français qui est Raymond Boudon, qui dans une certaine mesure, de façon plus théorique, amenait la même chose, qui était de dire, il n'y a pas que les sous dans la vie, il y a les valeurs.
Autre thème qui a été un thème alors qui a assez éphémère dans la campagne, mais qui a été quand même assez fort, Jean-Marc Daniel, c'est le thème de l'héritage, comment taxer l'héritage. Et vous avez choisi de nous parler du livre de Claire Fournier, Repenser l'héritage, aux éditions de l'Observatoire.
Oui, à l'origine, c'était un peu un livre de circonstances. Il y avait eu un rapport du CAE sur les droits de succession. Et puis, il y a eu, au tout début de la campagne électorale, tout un tas de débats et de propositions sur l'avenir des impôts sur les droits de succession. Et Claire Fournier fait le point. Alors, de façon très simple, elle explique vraiment quels sont les enjeux sur le plan fiscal, mais aussi les enjeux sur le plan strictement démographique. Elle rappelle que autrefois, on héritait dans les années 1820-1830 à 25 ans, maintenant à 55 ans, donc la société n'a pas le même rapport à l'héritage. Elle rappelle que dans les années 70, un tiers du patrimoine avait été hérité, alors que maintenant, c'est les deux tiers du patrimoine qui a été hérité. Donc, il y a de vrais problèmes, et elle s'appuie sur les propositions qui avaient été faites à l'époque pour plutôt demander orienter la fiscalité non pas vers une augmentation des droits de succession mais vers un allègement des droits de mutation. C'est-à-dire que l'on... des droits de donation qu'on permette effectivement aux jeunes de bénéficier plutôt de l'effort de travail et de patrimoine de leurs aînés. Donc c'est un livre qui est clair, simple, qui se lit vite, et même sur la plage, c'est utile de l'emporter.
Alors, est-ce qu'on peut lire à la plage, Christian Chavagneux, Pierre Lascoum, qui publie L'économie morale des élites dirigeantes aux presses de Sciences Po?
Pierre Lascoum, c'est notre meilleur spécialiste des déviances des élites dirigeantes, et donc là, il est assez malin ce livre, parce qu'il part de l'idée que certaines élites dirigeantes, économiques ou politiques, se sont fait prendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une fois qu'elles se sont fait prendre? Généralement, on se dit, est-ce que ce sont vraiment déviantes ou pas? Une fois qu'elles se sont fait prendre, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a de l'autorégulation, c'est la première partie du livre. Il y a une sorte de justice commerciale, justice de l'arbitrage d'investissement qui leur appartient en propre, à côté de la justice normale, j'ai envie de dire, avec une jurisprudence qui va dans tous les sens. Et puis, c'est la première partie. Ensuite, il nous dit, mais bon, si l'arbitrage, si la justice exceptionnelle n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui se passe après? Alors là, il décrit de manière assez amusante tout un tas de stratégies, la dénégation, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse, dit Jérôme Cahuzac. Ou alors, vous savez, mon pauvre monsieur, la séparation entre licite et l'illicite, dans ma partie, c'est pas comme chez vous. Voilà, que toutes les petites ruses, entre guillemets, que ces élites mettent sur la table. Et puis, si ça marche pas et qu'on arrive vraiment à la sanction, la dernière partie du livre montre que, contrairement à ce qu'on peut croire avec Nina Ricci, Cahuzac, avec les amants du BS, en fait, dans toutes ces problèmes de comportement illicite économique, eh bien, il y a très peu et de moins en moins de condamnations.
Jean-Marc Daniel.
Oui, c'était un livre que j'ai trouvé assez inégal, c'est-à-dire c'est un livre assez militant. La partie sur les tribunaux de commerce est à la fois très bien renseignée et très instructive. Après, les considérations sur effectivement l'impunité, c'est déjà assez convenu. Alors c'est vrai que...
Mais juste.
Oui, non. Le passage où effectivement les yeux dans les yeux, c'est à la fois facile mais assez assassin. Il faut reconnaître ce qui est.
Julien Damon, vous avez choisi de nous parler du livre de Thibaut Petit, Handicap à vendre.
Oui. Alors c'est un ouvrage original qui fait controverse. Il y a eu un ouvrage dans le secteur médico-social qui, cette année, a fait beaucoup parler de lui, c'est l'ouvrage sur Orpea. Ouais. Et bien, ce journaliste, Thibaut Petit, lui, nous parle d'un autre secteur que celui des personnes âgées dépendantes, le secteur des personnes handicapées qui travaillent dans le secteur dit protégé. Et vous avez 120 000 personnes handicapées quand même qui travaillent dans 1500 structures qui s'appellent des ESAT, ça veut dire établissements et services d'aide par le travail, ce sont les anciens centres d'aide par le travail, les CAT, et il en décrit, non pas les vertus, mais il en critique surtout certaines des difficultés, une difficulté que vous connaissez peut-être pas, mais c'est que quoi que vous soyez payé dans ces ESAT, eh bien, ça vient en diminution de votre allocation aux adultes handicapés sous des plafonds de 700 euros. Il nous décrit ce secteur qui est méconnu. Je répète, 120 000 personnes quand même qui ne relèvent pas du droit du travail parce qu'ils sont considérés, avant d'être des salariés, comme des usagers de ces services médico-sociaux. Et à ce titre, ils n'ont ni prévoyance, ni formation, ni chômage. Et il critique trois choses. D'abord, c'est des entreprises qui, passant par ces ESAT, contrainte pour faire de la sous-traitance, eh bien, se libèrent avec bonne conscience de leurs obligations d'emploi de personnes handicapées. Ils critiquent des associations qui sont à la fois militantes de la cause et gestionnaires de ces dispositifs, et puis un écrémage qui fait que ce sont les personnes handicapées les plus employables qui s'en sortent et pas les autres.
Allez, autre thème sur lequel, évidemment, beaucoup de livres ont été publiés au cours des derniers mois, la transition écologique. Alors là, on avait l'embarras du choix. Jean-Marc Daniel, un mot sur le livre de Fergan Aziari, Les écologistes contre la modernité aux éditions de la Cité, avant d'arriver au morceau de choix, quand même, le livre qui a marqué ce début d'année, celui de Jean-Marc Jancovici, Le monde sans fin.
Oui, il y a eu plusieurs livres qui sont parus pour dénoncer un peu un écologisme caricatural, militant et assez largement punitif. Alors, dans tous ces livres, j'ai choisi celui de Fergan Aziari, Les écologistes contre la modernité. D'abord parce que le style est extrêmement rapide, c'est une très belle plume, il y a quelques références historiques assez bienvenues. Et puis, il démontre assez bien que l'enjeu, c'est aussi une vision de la modernité. C'est-à-dire que à un moment donné, il explique, par exemple, tout un tas d'écologistes proposent de revenir au nom de la décroissance à des niveaux de revenus qui sont ceux des années 60. Alors ça paraît banal, mais le niveau de revenus serait deux fois moins élevé que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, quelle est la société qui accepterait des réductions aussi brutales de son train de vie? Je crois que personne n'est prêt à l'accepter. Ce que démontre assez bien Fergan Aziari, c'est que l'économie, l'écologie est devenue une forme d'utopie punitive moderne.
Allez, un petit coup de fusil, Christian.
Comme l'a dit Jean-Marc, il y a eu beaucoup de livres cette année très caricaturaux sur ce que pensent les écologistes. Celui-là en fait partie. Je me rappelle très vaguement, le livre m'a pas laissé de souvenir en général, tellement il était pas bon. Et notamment, je me rappelle d'une idée selon laquelle les écologistes sont contre le progrès technique. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Ça revient très souvent dans le livre. Je suis prêt à donner une liste de livres à l'auteur et de lui faire rencontrer une liste de personnes qui lui démontreront tout l'inverse.
Bah, quand vous avez des représentants des partis écologistes qui...
Non, vous nous faites le coup à chaque fois.
Non, mais
de citer
c'est vraiment parce que les écologistes dont vous nous parlez, on les voit jamais. Donc,
Vous ne les lisez pas.
Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas nier qu'il y a tout un courant parmi les écologistes qui prône, par exemple, ce qu'on appelle un choc de productivité négatif. Comment pouvez-vous être pour le progrès technique et vouloir un choc de productivité négatif? Je sais bien que ce ne sont pas ceux-là à qui vous faites référence. Alors, Julien Damon, la BD de Jean-Marc Jancovici, Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique.
C'est le succès de l'année. Alors, c'est sorti à l'automne 2021. Il y a déjà plus de 300 000 exemplaires qui ont été écoulés de cette BD qui a été signée avec Christophe Blin, qui est le dessinateur de la BD Quai d'Orsay. Moi, j'adhère beaucoup à cette BD. Alors, je sais qu'il y a des critiques, je sais qu'il y a un fan club de Monsieur Jancovici, et à l'inverse, il y a des gens qui alimentent les nécessaires
contradictions
par rapport à des points techniques. Mais je trouve que c'est extrêmement didactique. On apprend plein de choses. Il a des formules plutôt marrantes. On apprend que nous sommes des Iron Man tous, que pour bénéficier de l'ensemble de l'énergie dont aujourd'hui nous utilisons les bienfaits pour exister dans le monde moderne, il nous faudrait, si on s'intéressait seulement à l'énergie musculaire, 600 esclaves pour les Français, 200 personnes pour la moyenne mondiale. Alors évidemment, ce type d'information fait mille fois débat. Monsieur Jancovici est connu pour être à la fois un pro-écolo, mais pro-nucléaire, ce qui lui vaut parfois, même souvent des bagarres, mais surtout il plaide pour une sobriété qui, je trouve avec cette BD, des bons fondements.
Allez, deuxième coup de fusil, Christian Chavagneux.
Non, je pense que c'est un peu le champ du cygne de Monsieur Jancovici, parce que on sait que depuis longtemps que c'est un écolo nucléaire, mais son attaque contre les énergies renouvelables, jusqu'à présent, il avait sa petite communauté de fans, et depuis la sortie de cette BD, peut-être depuis le succès de la BD, eh bien, on voit de plus en plus d'ingénieurs qui, de manière tout à fait factuelle, contredisent systématiquement les prises de position de Monsieur Jancovici. Donc, il était un peu tout seul, il parlait avec son expertise technique qui est grande. Maintenant, d'autres experts techniques viennent le contredire de manière très très régulière, j'ai presque envie de dire au jour le jour ou à la semaine, et donc voilà, le débat commence, et autant on peut être pro-nucléaire, autant anti-énergie renouvelable avec autant de mauvaise foi, ben ça finit par se voir.
En tout cas, très agréable sur la plage.
Christian dit que la première partie est très ennuyeuse.
Ah oui, la première moitié, pour nous expliquer qu'on n'aurait pas pu se développer sans les énergies fossiles, ce qui est tout à fait juste. J'ai mis beaucoup.
Ah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est la première partie qu'on a pas plein de choses.
On est d'accord, on n'est pas d'accord.
Je crois que le succès de Librairie Parle pour ce livre est...
Grâce au dessinateur, beaucoup. Hein.
Oui. Et j'invite les gens, effectivement, au moins à le lire pour voir éventuellement s'il y a des erreurs, mais il y a quand même beaucoup d'informations. Et la première partie, c'est de la thermodynamique expliquée au nul. Après tout, c'est pas si mal que ça.
Ben oui.
Alors, moi, j'ai retenu 3 livres sur le sujet. Le livre de Fanny Paris, Les enfants gâtés chez Payot. Fanny Paris, c'est une anthropologue. Et alors, son raisonnement est vraiment, sa démonstration est vraiment passionnante. On peut l'acheter ou pas, mais c'est sur la bonne conscience, finalement, de la consommation responsable. Et elle explique de façon assez convaincante comment, finalement, on est passé insidieusement de l'injonction de consommer mieux et moins à celle de consommer mieux et plus. Et puis, alors, 2 livres que j'ai trouvé épatant pour changer un peu nos perspectives. 2 livres autour de la mer. Le premier, c'est Osons la mer de Christian Buchet au Cherche Midi. Nous l'avons invité et là, il renverse complètement les perspectives. Il dit très bien, il cite Éric Tabarly qui disait pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage. Donc, à quel point nous n'utilisons pas ce qui pourrait être une ressource et un champ de croissance absolument phénoménal. Il y a plein d'informations incroyables dans ce livre. Et puis, moi, j'avais beaucoup aimé aussi La Révolution des algues de Vincent Doumézel aux éditions Équateur. Christian Buchet, c'est au Cherche Midi. Sa thèse est absolument géniale. Les algues constituent sans doute la plus importante ressource inexploitée sur la planète. Il y a plein de déclinaisons. Voilà, ça ouvre des horizons absolument considérables. Sujet un peu plus convenu, mais sur lequel il y a eu beaucoup de livres aussi au cours des derniers mois. La réindustrialisation. Jean-Marc et vous avez choisi le livre de Jean-Pierre Clamadieu. Dieu, l'Europe, avenir de l'industrie française aux éditions du Cherche Midi.
Oui, c'est un livre, un texte assez court, qui est clair, où Clamadieu raconte un peu ses origines très rapidement. Il donne sa biographie. Il est ingénieur des mines, il est fils de cheminot, ce qui est une qualité dans la vie.
On s'en sort, vous savez, quand on est fils de cheminot.
Et il dit il y a une industrie qui a disparu et il ne faut pas avoir la nostalgie de cette industrie. Il faut véritablement penser la réindustrialisation avec 2 objectifs clairs. Le premier, c'est de ne pas essayer de préserver les industries comme les sidérurgies, qui sont de toute façon condamnés. Et la deuxième chose, c'est véritablement dépasser le simple discours de l'innovation et véritablement faire de l'industrie un lieu qui est un lieu où on prépare l'avenir, on construit l'industrie avec le numérique, le tertiaire. Et c'est un livre qui est assez... Alors, on peut considérer qu'il y a des idées qui sont assez banales et assez convenues. Je sais que... Alors, je vais lui laisser... Christian a beaucoup aimé la partie sur la RSE. Le patronat n'a pas toujours été à la hauteur de la situation. Le patronat a toujours été égoïste. Ça, j'ai trouvé ça assez convenu. En fait, mais en revanche, le fait de dire, écoutez, arrêtez de croire que vous allez sauver la sidérurgie, j'ai trouvé ça assez courageux.
Christian, tiens, puis donnez-nous votre avis sur ce livre, et puis profitez-en pour nous faire un petit tour d'horizon de ces livres de patrons que vous aimez parfois, vous n'aimez pas. Il y en a quelques-uns.
Celui-là, je l'ai bien apprécié. C'est l'expression d'un véritable Européen et qui nous dit que les entreprises françaises se sont trop mondialisées, qu'il faut retrouver au niveau européen une forme d'autonomie stratégique. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, mais quand c'est un grand patron d'une grande multinationale qui le dit, ça va encore mieux. J'avais beaucoup apprécié. Je sais pas s'il est sorti cette année ou à la fin de l'année dernière, mais le livre de Xavier Fontanet, l'ancien patron de Essilor, qui a fait un livre absolument remarquable sur quand on est à la tête d'une multinationale, quand on veut vraiment prendre sa place face à la concurrence, face à des cultures différentes dans chacun des pays, comment on fait. Il y a des pages qui, je pense, doivent être reprises dans toutes les grandes écoles de gestion, parce qu'elles sont vraiment non seulement claires, mais stratégiques et excellentes. J'avais beaucoup moins aimé le forme de livre entretien avec le patron de Blablacar, qui était rempli quand même de grosses banalités, ce qui est généralement le cas des livres de patrons. Hein.
Les livres de patrons, Julien Damon, vous avez un avis sur
les... Je sais qu'on avait discuté ici du livre signé par le patron de la Maïf qui se mettait en avant. Exactement. Et Christian l'avait trouvé très bien et moi je l'avais trouvé très mauvais, parce que typiquement dans ce type d'ouvrage, il y a des sortes de success stories, des gens qui vous expliquent combien ils sont beaux, bons et intelligents. C'est exactement ce que j'ai lu dans cet ouvrage. Et puisque Christian évoquait les questions de RSE en la matière, il y a une sorte de béni-oui-ouisation sur ces dossiers que l'on trouvait dans cet ouvrage aussi.
Alors pour éviter la béni-oui-ouisation, que moi je ne trouvais pas dans cet ouvrage, je conseille aussi le livre du patron du Crédit Coopératif, Jérôme Sadier, sur l'économie sociale et solidaire. C'est aussi un grand représentant représentant de l'économie sociale et solidaire. C'est un livre vraiment remarquable qui dit nous fonctionnons de manière démocratique, on fait du bien à la démocratie française, on veut produire des choses qui sont utiles aux liens sociaux, qui sont utiles à la société. On est avec des gens qui courent pas après toujours sans gagner toujours plus plein les poches. Il dit plutôt que de se cacher, il faut le revendiquer, se mettre en avant. On est en une forme d'utopie incarnée et je trouve qu'il a raison. Un excellent, c'est un petit livre qui se lit très facilement, de Jérôme Sadier, le patron du Crédit Coopératif, au petit matin.
Autre petit ouvrage de grand patron, l'ex-patron de Saint-Gobain a fait un bouquin sur la ville, où lui aussi il se met un peu en avant sur tout ce qu'il a pu voir à travers le monde, et il nous récite un peu tout ce qu'il a pu observer, mais aussi soulignant combien son entreprise et les entreprises françaises ont un rôle à jouer dans le monde entier pour décarboner nos existences, et nos existences urbaines en particulier.
Eh ben, sur la désindustrialisation, réindustrialisation, je vous cite quand même le livre de Nicolas Dufourcq, le patron de la Banque publique d'investissement, qui s'est livré à une cinquantaine d'entretiens pour essayer d'aller chercher vraiment les causes spécifiquement françaises de la désindustrialisation qui, au cours des 30 dernières années, a été plus importante qu'ailleurs. C'est un livre passionnant, très équilibré, qui montre que, grosso modo, tout le monde a sur les mains le sang de la désindustrialisation. Alors, lui, il le dit pas comme ça, il le dit tout le monde, on retrouve les empreintes de tout le monde sur la désindustrialisation. Mais bref, les patrons, les salariés, les syndicats, les pouvoirs publics, vraiment le rôle de chacun est extrêmement bien détaillé. Allez, c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho de l'été. On se retrouve tout de suite, toujours avec Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, Julien Damon, et en plus, évidemment, nos chroniqueurs nous rejoignent, Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, Ben Aouda Abdenaïm, notre globetrotteur. À tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Toujours avec nous, Christian Chavagneux, Julien Damon, Jean-Marc Daniel, et nous sommes rejoints par notre bibliothécaire Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Stéphanie qui nous a choisi deux livres pour occuper nos vacances. Alors, le premier, un livre qui est plutôt un livre du passé, et puis le deuxième, ce sera un livre qui nous projette dans le futur. Eh oui, allez, on révise nos classiques, et vous avez choisi donc le livre de Milton Friedman, Inflation et système monétaire, puisque l'inflation est quand même le terme économique dont on parle le plus en ce moment.
Ouais, thème d'actualité qui le restera certainement cet été. Et donc, inflation et système monétaire de Milton Friedman, il veut en fait réhabiliter la théorie quantitative de la monnaie d'Irvin Fisher, qui montre que les causes de l'inflation sont toujours monétaires, s'opposant ainsi à Keynes. Et pour Friedman, la hausse du prix du pétrole et des salaires n'y sont pour rien. C'est la banque centrale qui crée trop de monnaie et qui enclenche le processus inflationniste. L'inflation des États-Unis se crée à Washington et nulle part ailleurs, écrit-il. Et alors pourquoi on commet une telle erreur à Washington ? Il répond parce qu'on y applique les recettes keynésiennes. Pour atteindre le plein emploi, on relance la machine économique en recourant à la planche à billets, une politique monétaire qu'il juge laxiste et dangereuse. Pour Friedman, il faut au contraire un contrôle très strict de la création monétaire. Et cette politique qu'il va donc développer dans inflation et système monétaire, elle sera menée par Paul Volcker à la tête de la Fed à partir de 1979. Il parviendra à faire diminuer l'inflation de 13,5% en 81 à 3,2% en 83. Politique aura aussi une certaine influence sur Richard Nixon et Ronald Reagan, ou encore en Grande-Bretagne sous le gouvernement de Thatcher, Margaret Thatcher.
Allez, vous nous projetez dans le futur maintenant. Oui. Stéphanie, on part en 2051.
À quoi vont ressembler nos sociétés dans 30 ans ? C'est la question au cœur du livre de Brice Le Blévenec, Vision d'un monde meilleur. Un livre de science-fiction qui se veut réaliste. Brice Le Blévenec, il est belge, il a fondé l'agence digitale Imakina en 2001. Et c'est avec 50 consultants de son groupe qu'il a écrit ce livre et qu'il a imaginé la vie qu'on pourrait connaître en 2051.
Alors, est-ce qu'il fera bon vivre en 2051?
Alors, messieurs, je ne vous cache pas que je pense que ça va pas vous plaire. Hein. Ah. Sincèrement, j'ai l'impression que ça ne va pas vous plaire.
Allez-y.
Pourquoi ? Parce qu'en 2051, la nourriture sera bien plus un carburant qu'un plaisir. On va privilégier l'apport nutritionnel plus que le goût grâce à des appareils de santé connectés. On ne mangera plus que le strict nécessaire sous forme de substitut de repas.
Quelle horreur !
Ultra personnalisé.
Marc est en train de défaillir.
La viande sera cultivée en laboratoire à partir de cellules souches animales. Manger de la viande, d'ailleurs, sera très mal vu. Hein. Ça va être aussi mal vu que fumer aujourd'hui. Ça sera aussi la fin de la nourriture anonyme grâce à la blockchain qui va permettre une traçabilité de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et on pourra aussi faire nos courses dans le métaverse ou des univers parallèles grâce à des casques de réalité augmentée. Et on pourra bénéficier aussi de conseils personnalisés dans ces magasins grâce à des diététiciens présents sur place dans le métaverse.
Bon, allez, est-ce que vous avez des meilleures nouvelles sur l'avenir de l'éducation ?
Alors, on enseignera grâce à la réalité virtuelle, augmentée et aux hologrammes. Les élèves seront équipés de bandeaux autour de la tête qui collecteront les données et qui donneront les instructions aux élèves par conduction osseuse. Toutes les données seront ensuite transmises sur la tablette des professeurs qui pourront se rendre compte ou pas de la concentration des élèves en temps réel. Et les hologrammes permettront aussi d'augmenter la mobilité des professeurs.
Un mot sur l'énergie.
L'énergie, elle sera verte et l'eau douce illimitée. Pour y parvenir, il faudra intégralement repenser l'énergie nucléaire et abandonner l'uranium au profit du thorium, trois fois plus abondant dans la croûte terrestre. Il produit beaucoup moins de déchets que l'uranium avec une décroissance radioactive beaucoup plus rapide. Les centrales seront miniatures, de la taille d'une caravane. L'hydrogène sera utilisé comme matière première, mais aussi pour le transport, le chauffage des bâtiments ou encore la production d'électricité. On utilisera de l'hydrogène vert, sans émission carbone, mais aussi de l'hydrogène blanc, présent là encore dans la croûte terrestre. Et dans 30 ans, toutes les maisons seront autonomes en énergie.
Un mot rapide sur le travail, Stéphanie.
Rapide sur le travail, grâce à la... On sera tous au travail grâce à la présence virtuelle qui sera devenue la norme, hein, grâce au métaverse. On pourra tout faire dans ce métaverse depuis notre domicile, travailler, faire ses courses, jouer avec ses amis, visiter nos proches. Facebook lancera des salons virtuels de discussion. Bon. Les bureaux seront du coup remplacés par des espaces verts. Et puis pour terminer, peut-être dans le futur, on pourra se mettre en hibernation aussi. Ça, c'est un des scénarios les plus improbables, mais ils le développent quand même dans le livre.
Vu comment on va s'ennuyer, ce sera peut-être la meilleure chose à faire d'ailleurs.
On pourra partir en vacances, se mettre dans un coma volontaire.
D'accord.
Voilà, on pourra échapper à la réalité pendant 6 mois ou 1 an.
Merci beaucoup. Stéphanie, allez, vous avez choisi aussi, Julien, Christian, Jean-Marc, des livres qui nous font voyager dans le temps. Le livre, qui est un livre, c'est assez... C'est culte, j'ai envie de dire, Jean-Marc Daniel, le livre de Kenneth Pomerantz, Une grande divergence, aux éditions Albin Michel.
Oui, c'est un livre qui vient d'être réédité et en format de poche. Deux mots juste sur la thèse du livre, c'est que ce qui a fait la force du Royaume-Uni, dit l'auteur, ce n'est pas un état de droit, ce n'est pas une tradition culturelle, ce n'est pas la victoire finale sur Napoléon et la France. En fait, c'est le charbon. Et donc, il dit, avoir maîtrisé l'énergie au travers de cette énergie particulière qui est le charbon, c'est ça qui a fait la force de l'Angleterre. Et la Chine, elle, qui avait pourtant du charbon, mais bien moins bien située, et a été incapable d'être au rendez-vous alors qu'elle avait été la puissance de référence précédemment.
Christian Chavagneux.
Alors, c'est un classique, le livre de Pomerantz, mais on nous annonce pour la rentrée Commerce, Argent et Pouvoir de François Gipoulou au CNRS Édition, qui va remettre en cause largement la thèse de Pomerantz.
Ah ouais.
Et donc, j'attends le livre avec intérêt, parce que le livre de Pomerantz, c'est très intéressant. Gipoulou, c'est un économiste, historien très sérieux. Et donc, j'attends de voir ce débat monter à la rentrée.
Eh ben, écoutez, voilà, on pourra se faire le match.
Voilà.
Dans une des librairies de l'écho de l'automne. Vous, Christian, vous avez choisi de nous raconter l'histoire de la globalisation financière et de la supervision bancaire. Liberté surveillée. Alors, liberté, je vous le refais. Liberté surveillée, supervision bancaire et globalisation financière au comité de Bâle. ça raconte la période 1974-1988.
C'est ça, Alexis Drac, qui est donc un historien, s'est plongé dans les archives et nous raconte comment on a essayé de mettre en place, comment on a commencé à mettre en place une régulation bancaire mondiale en 1974. C'est qu'il y a deux grandes faillites bancaires internationales en 1974, celle de la Franklin National Bank et la Erstadt Bank en Allemagne. Il passe juste à côté de ce, le sujet au côté du cas tous les économistes passent, c'est qu'il y a une forte dimension d'illégalisme, voire de mafieux, dans ces deux crises bancaires. C'est pas très grave parce que l'ensemble du livre nous montre que parce qu'il y avait déjà beaucoup de contacts entre les superviseurs internationaux qui a pu avoir ce comité de Bâle en 74. Il nous dit que dans les années 70, la France n'y croyait pas du tout, a freiné l'idée d'avoir une supervision bancaire mondiale. Il a des pages absolument fabuleuses pour montrer combien déjà les superviseurs bancaires voient que les paradis fiscaux, pas au sens d'échapper aux impôts, mais au sens de lieu où on peut prendre des risques de manière opaque, eh bien se développent et vont empêcher une très bonne surveillance au niveau international. On va jusqu'au fameux ratio coût comme 1988 qui oblige les banques à mettre, à se financer avec un peu plus de capital pour faire face à leur crise. C'est un livre remarquable, c'est un livre d'universitaire, mais qui se lit très bien, un peu pointu, un peu technique parce que ça parle de finances, mais on a toute l'histoire sur de 74-88.
Julien Damon, un livre qu'aurait pu choisir Stéphanie, le livre de George Orwell, Le Quai de Wigan chez Flammarion.
Absolument, qui vient d'être réédité en français, qui date de 1937. Alors les sociologues appellent ça de l'observation participante, les reporters appellent ça du journalisme immersif. Là, Orwell s'immerge dans la vie des mineurs de Wigan. Wigan, c'est entre Liverpool et Manchester. Les mineurs, c'est pas les jeunes, hein, c'est ceux qui travaillent dans les mines, en pleine période de crise économique. Et il prend l'ascenseur social d'abord vers le bas pour partager les réalités du prolétariat et du sous-prolétariat. Et il en tire des descriptions qui font frémir sur la réalité de l'existence de ceux qui vivent la révolution industrielle. Et il reprend l'ascenseur social vers le haut pour nous expliquer toutes les difficultés que l'on a comme on est, comme lui, un Tory chic à l'accent noble, blue-blooded, disent les Britanniques, pour décrire les réalités. Et en même temps, il se fiche de la figure de tous les progressistes révolutionnaires qui, en réalité, ne tolèrent pas ces pauvres prolétaires.
Merci messieurs, merci Stéphanie. On retrouve tout de suite, alors toujours nos éditorialistes, nos critiques, et puis Benaouda Abdennaïm nous rejoint à notre Globetrotter pour faire un tour du monde des études et des livres.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Allez Benaouda, donc vous nous avez sélectionné 5 études
et
livres, absolument, comme c'est la règle chaque été, voilà, pour notre lecture d'été. On commence par l'Allemagne et l'Union européenne dans la concurrence mondiale entre les États-Unis et la Chine.
Quelles sont les options d'action de l'Allemagne dans et pour l'Union européenne? C'est un travail collectif que vient de publier la Fondation Konrad Adenauer, liée, comme son nom l'indique, aux chrétiens démocrates allemands. Les voies possibles entre les deux puissances mondiales antagonistes, pour ne se laisser distancer ni par l'une ni par l'autre, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Yann Cernicki et ses collègues balaient très large. C'est très instructif, économie, commerce, climat, innovation, marché financier, technologie. Et on est ici dans de la théorie, mais ils établissent vraiment point par point toute une architecture pour l'autonomie européenne. La politique commerciale allemande ne se conçoit plus que dans le cadre de l'Union européenne. La politique climatique également, face aux deux plus gros émetteurs de CO2 au monde que sont les Chinois et les Américains. La politique de soutien à l'innovation technologique est là aussi pensée comme une alternative à la surpuissance américaine et chinoise dans laquelle l'Allemagne doit agir par et au sein de l'Union européenne. On a ici toute une conception tout à fait assumée de ce qu'un pouvoir européen pourrait avoir comme capacité à organiser les relations internationales avec, cela va de soi, dans cette perspective, un rôle moteur pour l'Allemagne en tant que numéro un.
Alors, vous nous dressez le portrait ensuite, Benaouda, de la nouvelle gauche latino-américaine.
Oui, c'est un concept. C'est la revue trimestrielle argentine Nueva Sociedad, Nouvelle Société, qui publie ce numéro pour ses 50 ans. Elle considère que le progressisme latino-américain est entré dans une seconde phase qu'il ne va pas falloir rater cette fois. On assiste à des alternances marquantes actuellement en Amérique latine. Ouais. On l'a vu récemment en Colombie, potentiellement au Brésil, à l'automne. José Natanzón avance cette notion de nouvelle gauche avec ses subdivisions pour établir une différence avec le cycle au pouvoir des années 2000. Et là aussi, même si on est dans des options idéologiques qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec le précédent document, celui de la Fondation Konrad Adenauer, ce travail est pensé comme une possibilité pour un bloc, en l'occurrence l'Amérique latine, de tirer profit de l'antagonisme grandissant entre les États-Unis et la Chine et à équidistance. On a l'impression que l'Europe et l'Amérique latine voient le monde de la même manière. Et il y a l'approche américaine que Nueva Sociedad combat de longue date, mais il y a aussi la description d'une Chine qui avance par ses investissements, par ses constructions d'infrastructures, par ses échanges matières premières contre marchandises. À la différence près, a écrit José Nathanson, que les Chinois, eux, ne requièrent pas la conversion au maoïsme au moment de mettre en place un swap pour couvrir un crédit. Pour l'auteur, le risque à présent est celui de la mélancolie, écrit-il. Si la nouvelle gauche veut espérer réussir, elle doit coordonner ses tribus, je cite, pour offrir un programme de réforme socio-économique à l'échelle de ce sous-continent, de ce continent qu'est l'Amérique latine.
Allez, après l'Europe, après l'Amérique latine, vous emmenez en Chine, Ben Aouda, avec ce travail, pouvoir intégrer État chinois et développement économique.
C'est un livre que met en exergue un journaliste chinois de l'agence officielle Xinhua, qui s'appelle Zhi Chengwang, et qui tient, alors, faut le signaler, une lettre en ligne personnelle particulièrement instructive sur la Chine contemporaine. Ça s'appelle Pekingology. Il publie là de larges extraits d'un livre d'un professeur de l'école d'économie de Fudan, l'université de Shanghai, l'un des établissements les plus prestigieux de Chine. Il s'appelle Lao Xiaoyuan. On a ici une analyse très poussée de l'action intérieure de la puissance publique chinoise dans la mise en œuvre de ses orientations à travers le pays et puis dans les effets que cela induit. La fiscalité et l'utilisation des recettes budgétaires montrent une concurrence extrêmement féroce entre les collectivités locales, entre les provinces, entre les villes pour déclencher les projets. Cela peut sembler contradictoire avec la perception de cette unité absolue de pouvoir en Chine, mais c'est cette compétition interne féroce qui a conduit à un extraordinaire rattrapage industriel en trois décennies dans ce pays. Puis la dépense budgétaire, on voit aussi, s'est déplacée du soutien massif, permanent à la production vers le financement des services publics. On apprend dans ce livre qu'en 2018, si vous cumulez social, culture et éducation, vous êtes à 40% des budgets locaux de dépenses. On apprend aussi beaucoup de l'évolution de la gestion du foncier en Chine qui avait sombré dans le chaos, je cite, à la fin des années 90, début des années 2000, et que le pays, on le voit encore maintenant, ne parvient toujours pas à juguler.
Autre étude, Ben Aouda, casser la banque, le contrôle militaire de l'économie au Soudan.
C4ADS, c'est une organisation américaine qui a publié cet essai sur la manière dont l'armée soudanaise et les forces de sécurité de l'intérieur ont bâti un monopole économique stupéfiant dans ce pays. Les auteurs ont minutieusement identifié 408 entités contrôlées par les chefs de l'appareil de sécurité, du secteur bancaire à l'agroalimentaire, en passant par l'exclusivité sur les importations de médicaments. Le coup d'État d'octobre 2021 leur a permis en très peu de temps de resserrer leur contrôle sur l'activité économique et d'évincer le secteur privé. Défaire en fait ce qu'a lancé le gouvernement de transition à l'issue de la révolution de 2019, qui a renversé le général Omar al-Bashir. Et on voit que les entreprises hors du champ militaire, d'après ce document, sont à présent méthodiquement asphyxiées. C'est très instructif à lire, encore une fois, sur une économie mise en coupe réglée.
Allez, et on termine par une petite visite du Café Riche. Un œil sur l'Égypte.
Alors, il s'agit d'un livre d'été repéré dans le journal égyptien Al-Ahram. Il est écrit par Maysoun Sakhl, qui est une émiratie qui a procédé à compilation d'archives tout à fait extraordinaire sur ce Café Riche qui est emblématique vraiment de la ville du Caire. Il se trouve non loin de la place Tahrir qui est la place la plus emblématique de la capitale égyptienne. Alors, ce café a été ouvert en 1908 par un ancien officier autrichien et il a traversé les révolutions de 1919, de 1952, de 2011. On y voit comment il a été un lieu de convergence du militantisme égyptien et de ses soubresauts à travers l'histoire contemporaine, et comment aussi cet établissement a changé dans sa propre configuration lorsqu'à la fin des années 1990, la salle a été cloisonnée pour coller au temps, aux mœurs qui ont évolué en Égypte. À présent, il n'y a plus qu'une certaine nostalgie patrimoniale dans ce café riche qui fut jadis cette fenêtre ouverte sur la nation égyptienne.
Merci beaucoup, Ben Aouda. Ça vous a donné envie. évidemment de le lire. Vous aviez, messieurs Julien, Christian, chacun aussi un livre, une référence étrangère. Julien, c'était le livre de Edward Glaser et David Cutler, Survival of the City.
Voilà, qui pose une bonne question et qui donne la réponse. Les villes survivront-elles au Covid? La réponse est oui. Glaser et Cutler sont deux économistes de Harvard qui travaillent souvent ensemble mais qui ont des opinions assez opposées, des opinions politiques, qui en revanche sur le sujet de la ville expliquent que les villes ne sont pas le danger, parce que la densité pourrait être considérée comme le danger en période d'épidémie, ce que l'on sait depuis très longtemps, mais que les villes peuvent être en danger, notamment parce qu'elles sont aujourd'hui fuies aux États-Unis par les plus aisés. Et donc, ce qu'ils souhaitent, c'est un investissement puissant dans le capital humain et dans la construction afin que les villes soient les établissements humains les plus agréables et les plus performants.
Christian Chavagneux, un livre haletant.
On en avait débattu avec,
absolument.
Avec Julien, les Nazi Billionaires, comment les 5-6 plus grandes fortunes allemandes d'aujourd'hui tiennent cette richesse d'une construction qui s'est opérée essentiellement sous le nazisme, en soutien idéologique et économique à Hitler, et pendant la guerre, par la spoliation, l'arianisation des entreprises juives, par l'utilisation du travail forcé, et on arrive à la troisième génération aujourd'hui, une partie d'entre elles dépensant un argent fou pour essayer de donner à des associations philanthropiques, et l'autre partie qui s'en moque totalement et qui assume totalement l'origine noire de cette richesse. Un livre fascinant.
Allez, un ou deux petits coups de cœur avant de se projeter vers les livres de la rentrée. Un livre qui vous avait beaucoup plu, l'Atlas Molière.
Ah oui, tout à
par
fait.
Par Clara Delberto, Jules Grandin et Christophe Chouet aux éditions des Arènes.
1622, c'est la naissance de Molière. Donc on fête. Et c'est ce livre nous présente un Molière entrepreneur de spectacle, en fait. Et donc on découvre comment il se base pour la propriété intellectuelle de ses pièces, comment on organise une troupe de théâtre, comment on la finance. C'est tout à fait plaisant.
Vous aviez aussi une série. The Dropout,
c'est, vous savez, j'aime beaucoup travailler sur les escrocs, et donc The Dropout, c'est Elizabeth Holmes qui a fondé cette start-up qui s'appelle Terranos et qui était censée, avec une petite piqûre, vous prendre 2 gouttes de sang, et pendant que vous allez faire vos courses, vous revenez 1 heure après et on vous fait toutes les analyses de sang du monde. C'est une escroquerie, elle n'a jamais réussi à monter son appareil, et donc elle a menti, triché, elle a quand même réussi à récupérer $1 milliard. Amanda Seyfried est absolument exceptionnelle pour rendre Elizabeth Holmes. Elle a copié des véritables images, et on s'y croirait, c'est pratiquement un reportage, c'est magnifique.
Disney+.
Oui. Sur Disney+, tout
Disney+,
à fait.
Plus. Ok.
Huit épisodes.
Alors Julien Damon, vous avez un coup de cœur, un peu plus... un peu plus sérieux, quoi, on va dire. Le numéro spécial de la revue Droit Social sur Jean-Jacques Dupérou, l'œuvre et absolument. L'engagement.
Mais ça fait palpiter aussi. Mais Droit Social est un mensuel et j'invite tout le monde à lire sur la plage ou au ski ou n'importe où cette belle revue de droit du travail et de droit de la protection sociale qui rend hommage à la personne qu'il a très longtemps incarnée, Jean-Jacques Dupérou, qui était un professeur de droit flamboyant, un grand contributeur à la doctrine de la protection sociale, un grand spécialiste de San Antonio par ailleurs, mais ça, il le développe pas trop. Et lire cela, c'est toujours avoir une formidable perspective sur nos réalités quotidiennes dans un état-providence qui a son utilité et ses performances.
Allez, comme de coutume, pour clôturer cette librairie de l'été, on se projette un peu vers la rentrée, voilà, histoire d'être, de se dire, voilà, on aura des choses à lire et puis une consolation à la fin des vacances. Christian Chavagneux, qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce que vous attendez avec impatience dans les livres qui seront publiés à la rentrée?
4-5 livres. Pavé Histoire mondiale du protectionnisme d'Ali Laïdi, un journaliste qui est spécialiste de la guerre économique aux éditions Passé Composé. Un empire de velours de David Todd qui a fait beaucoup parler du côté des anglo-saxons, assez critiqué, c'est sur l'empire informel colonial français. Ça a l'air très très riche, en même temps ça a été critiqué, donc j'attends de voir ça. Commerce, argent, pouvoir, j'en ai parlé tout à l'heure, François Gipoulou aux éditions du CNRS. Cyril Coutancet, toujours aux éditions du CNRS, va nous offrir une histoire des empires maritimes. Et donc j'attends ça aussi avec impatience. Et puis deux petits livres au seuil, Ralentir ou périr, on nous promet une véritable approche de la décroissance sérieuse, donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Et puis le livre de François de Dieu, toujours au seuil, pesticides, pourquoi lorsqu'on sait depuis très longtemps sur le plan scientifique que c'est très mauvais pour notre santé, on développe encore ces pesticides. J'attends tout ça avec grande impatience.
Alors moi, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré le nouveau livre de Pierre Veltz, qu'on aime toujours beaucoup, Pierre Veltz, à la librairie de l'Écho. Ce sera aux éditions de l'Aube. Une réindustrialisation écologique est-elle possible? J'attends aussi avec impatience, même si c'est un créneau qui commence à être assez occupé, le créneau autour de la renaissance des campagnes. Ça s'appelle la revanche de la province. Un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, la province. Il y a eu la périphérie, les territoires, etc. J'en attends beaucoup. On verra si on n'est pas déçu. C'est chez Gallimard, Jérôme Batou. Et puis Anne de Tinguy, qui est une historienne. Le géant empêtré, une histoire récente de la Russie, pour comprendre un petit peu où en est la Russie de Vladimir Poutine. Et puis quand même, je ne peux pas ne pas citer les deux livres que nous attendons peut-être avec le plus de bienveillance. En tout cas, cher Julien Damon, vous publiez un nouveau livre à la rentrée. Ça va s'appeler « Aux frontières du logement ordinaire sur l'hébergement ». Les pauvres, les vieux, les étudiants, aux éditions de l'Aube. Bah, dites-nous en un mot, en exclusivité.
En exclusivité mondiale. Ce que l'INSEE baptise le logement ordinaire, c'est là où habitent les foyers considérés comme ordinaires. Mais manque 2 millions de personnes à l'appel, c'est toutes les personnes qui vivent dans des casernes, dans des centres d'hébergement ou dans des EHPAD. Donc j'explique tout cela du point de vue juridique et économique. Un chef-d'œuvre.
C'est bien, on l'attend avec impatience. Et puis Jean-Marc Daniel qui publie à la rentrée vivement le libéralisme aux éditions Perrin. Oui, ben oui, en attendant Godot un peu, hein, Jean-Marc Daniel avec le libéralisme. Et puis voilà, vous savez toujours que je termine par cette rubrique. Si jamais on vous manque pendant l'été, vous pouvez retrouver nos amis de la librairie de l'Écho, Christian Chavagneux. Alors Christian Chavagneux, vous savez, il avait publié Les plus belles histoires de l'escroquerie, c'était il y a 3 ans maintenant.
En 2020.
Deux ans. Voilà. Et le livre sort maintenant en poche, donc il vous coûtera moins cher. Pour l'été, c'est vraiment, franchement, un livre absolument remarquable. Les plus belles histoires de l'escroquerie. Bon, c'est du Christian Chavagneux, quoi. C'est bien écrit, c'est vivant, c'est haletant, c'est drôle aussi. Et c'est vraiment passionnant. C'est aux éditions Point Seuil, c'est ça, Christian. Et puis, on peut relire aussi Julien Damon.
Ah oui, j'ai un petit ouvrage qui sort en poche, c'est vrai, pour cet été. C'est ni flamboyant ni haletant, hein, c'est moins rigolo. Ça s'appelle « Qui dort dehors » et c'est sur les sans-abri.
Voilà, et puis les multiples livres, évidemment, de Jean-Marc Daniel. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho qui clôture la 8e saison. Voilà, donc nous vous remercions pour votre fidélité. On vous retrouvera avec plaisir à la rentrée. Avec le cœur léger, puisque nous savons que nous vous avons laissé beaucoup, beaucoup de bonnes lectures pour cet été. Passez un très bel été et très bonnes vacances.